Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Quelle belle journée on a eu aujourd'hui. Est-ce que vous avez affûté votre bronzage? Oui, pas encore, peut-être. Il reste encore un peu de soleil pour ce soir puisque, bon, dans les prochaines heures, on nous annonce un ciel dégagé, mais le soleil est encore présent. Maximum de 26, on l'a battu, on a pogné un genre de 27 températures enregistrées à l'aéroport International Jean Lesage. Dégagé pour ce soir, minimum de 9 degrés. Ça va bien dormir. Pour ce qui est de demain, jeudi, jour de paye, c'est 30% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 21. À plus long terme, vendredi, ce sera des nuages avec des probabilités d'averse à 70%. Ça va continuer en soirée, vendredi soir. Pour ce qui est de samedi, ce serait de la pluie avec un maximum de 17 degrés. Et dimanche, ce serait de la pluie intermittente avec un maximum de 14. Mon invité de ce soir, c'est le gars de la Fédération canadienne des contribuables. On va parler de votre argent avec Nicolas Gagnon. Si vous voulez en savoir plus sur cette fédération-là, c'est contribuable avec un S.ca. On écoute ça ensemble à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous ce soir. Salut mon ami!
Bonsoir, ça va bien?
Oui, ça va bien, mais j'ai besoin de conseils. T'es comme mon psychologue. Comment tu fais? Toi, t'es un gars de centre droit économique. Là, comment tu fais pour pas saigner du nez ce temps-ci? T'as-tu un truc? Est-ce que tu te penches la tête par en arrière? C'est quand t'entends les dossiers de la SAAC qui chirent comme pas possible, qui nous coûtent une beurrée, quand tu vois qu'un parti politique dépense de l'argent à n'en plus finir en se disant « Ben, c'est pas grave, s'il en reste plus, on redemandera ça aux citoyens. » Mais tu fais pas saigner du nez. C'est quoi la technique, là? Explique-moi ça, là.
Honnêtement, je pense que la technique, dans mon cas, c'est qu'à force de saigner du nez, éventuellement, il n'y a plus rien qui sort. Fait que c'est comme si on est habitué au supplice et éventuellement, on fait juste, s'habituer. Veux, veux pas, au Québec, on envoie des dépassements de coûts, on envoie des scandales à répétition avec les finances publiques, puis on dirait que ben, à force d'en voir, on est de moins en moins surpris, ce qui est dommage, en fait, parce qu'on devrait toujours s'insurger, puis on devrait toujours être sur le bord d'avoir une veine sur le côté du front qui éclate, parce qu'on n'est pas content de voir à quel point notre argent a été gaspillé pour un énième projet qui n'avait pas lieu d'être.
Ouais.
Mais on finit par avoir la couenne dure, puis on reste quand même optimiste, mais je partage quand même ton pessimisme. Des fois, là, ça clique et compagnie, ça fait partie des choses qui nous révoltent. Nordvolt, le toit du Stade olympique à 1 milliard, bref, on en voit toutes les couleurs avec ce gouvernement-là, puis c'est loin d'être terminé pour l'instant.
Tu sais, Nick, puis j'imagine que t'es comme moi. Moi, j'ai des chums dans toutes les strates de la société. J'ai des chums qui sont pauvres, j'ai des chums qui ont des salaires moyens, puis j'ai des chums qui ont des salaires, des fois, qui sont disproportionnés, puis je les écoute parler. Puis ce qui me tue le plus des choses que j'entends de la part de mes amis, c'est les gens qui sont dans la classe moyenne, qui ont deux jobs à maison. Monsieur, madame travaillent 40 heures par semaine, essayent de payer leur petit bungalow, voient des augmentations à gauche et à droite, essaient de payer l'essence, essaient de payer l'école pour les enfants, essaie de payer le hockey ou encore le patinage artistique ou les sports que les enfants veulent faire la fin de semaine, puis ils ont de la misère à arriver. Nick, c'est humiliant pour des travailleurs de travailler temps plein puis de ne pas être capable de payer tes affaires. Puis tu vois les scandales qui pètent d'un bord et de l'autre, puis les politiciens qui parlent de notre argent comme si on était une source de revenus inépuisable. C'est normal de se sentir fâché des fois, là.
Ben, c'est très normal, surtout qu'après ça, la population, avec raison, demande un petit répit, un allègement fiscal, une baisse d'impôts, une baisse de taxes. Et il y a littéralement personne à l'Assemblée nationale qui semble partager l'avis de la population. On l'a vu récemment avec les différents sondages qui sont sortis, notamment sur la taxe carbone, puis on y reviendra, là, mais au final, il y a plein d'autres revendications qui sont généralement très peu écoutées par la population. Puis un exemple que, comme tu mentionnais, parce que on parle des familles qui travaillent, là, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, chacun doit s'occuper des enfants, doivent aller les reporter à l'école, les emmener à leur entraînement de hockey, puis après ça, ils ont quand même une vie en dehors du travail. Mais ces gens-là, cette année, là, ils ont reçu, s'ils habitent la région de Québec ou la région de Montréal, là, je te le montre, malheureusement, on ne le verra pas à la radio, mais j'ai reçu mon renouvellement d'immatriculation pour mon véhicule. Cette année, ça me coûte 392 $ pour ma voiture pour le renouvellement parce que moi, j'habite dans la région de Laval, mais ça fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Et depuis le 1er janvier, en fait, c'est en vigueur. Il y a une augmentation de la taxe sur l'immatriculation de 154 % qui a affecté tous les propriétaires de véhicules dans la région. Puis, tu sais, au début, je me demandais, bien, où est-ce que ça va se refléter, cette partie de la facture-là? Puis, je regarde, 392 $, c'est quoi le. Comment est-ce qu'on arrive à ce montant-là? Parce que dans mon cas, ça a presque doublé. Ben écoute, près de la moitié, 180 $, c'est pour le transport en commun. C'est pour le transport en commun qui est déficitaire. Et donc, on se retrouve à payer beaucoup plus cher, puis on n'aura pas plus de services. On ne fait que payer plus cher en tant qu'automobiliste parce qu'on a des réseaux de transport en commun dans la région de la Capitale-Nationale, dans la région du Grand Montréal, qui sont incapables de gérer comme du monde, puis qui refilent la facture aux automobilistes. Puis là, ça, c'est juste pour moi, c'est une augmentation de 154 % pour cette partie-là des taxes, donc le transport en commun ou le fameux droit sur l'immatriculation. Mais pour une famille, c'est quasiment le double. Donc, quand vous avez deux véhicules, c'est fois deux cette facture-là. Donc, imaginez comment ça peut affecter le portefeuille d'une famille. Donc là, je vous parle des déficits du transport en commun. Maintenant, on retourne à Québec. Les gens, ils n'en peuvent plus. Ils veulent une baisse de taxes, une baisse d'impôts, sortir du marché de carbone, peu importe. Qu'est-ce que nous dit le gouvernement? Ben, non seulement on dilapide votre argent dans toutes les directions, mais en plus, on n'en a plus. On est déficitaire. On a un déficit de 13,6 milliards cette année. Fait qu'il va falloir attendre qu'on ait fait le ménage avant que vous puissiez en demander davantage. Mais quand on regarde les chiffres, puis on regarde les projections pour le retour à l'équilibre, où est-ce que le gouvernement va enfin avoir retrouvé le contrôle de ses finances, c'est pas avant la fin de la décennie, là. Donc, les gens, non seulement ils en arrachent, mais ils n'ont pas de personne pour leur parler présentement à l'Assemblée nationale puis leur dire on peut vous aider puis voici comment. Malheureusement, il n'y a pas cette discussion-là présentement. Puis c'est pour ça que les contribuables ont le droit d'être complètement là, déçus de la part de leurs politiciens.
Oui, effectivement. Puis je rappelle aux gens qu'on était avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Puis heureusement qu'on a des gens comme vous autres pour mettre de la pression sur le gouvernement. T'sais, aujourd'hui, là, je faisais ma tournée quotidienne, puis je regarde là, le fameux scandale à la SAAC. Geneviève Guilbeault qui essaie de se sortir du pétrin. Déficit anticipé pour ce qui est de la SAAC cette année, là, selon l'ex-directeur de la vérification interne, Daniel Pelletier, le déficit anticipé va atteindre 1 milliard de dollars cette année. Et pire encore, ce qu'on apprend, c'est qu'au mois de décembre 2024, la SAAC a utilisé 761 millions de dollars de sa marge de crédit. Et la limite de cette marge de crédit-là, c'est 817 millions de dollars. Donc, on est à côté. Puis, comment on va régler ça? C'est qu'on va en demander plus aux citoyens. Et ce matin, je ne sais pas si tu t'es levé à la même heure que moi, mais on avait l'intention, du côté de la Coalition Avenir Québec, de prendre le manque à gagner à la SAAC, de prendre directement ça dans les coffres des gens, des accidentés de la route, pour essayer de résorber un peu le déficit escompté. Je veux dire, c'est notre argent à nous, puis ça m'a fait rappeler quelque chose. Puis je pense qu'on a ça en commun, toi puis moi, là. Tu sais, on a des affinités avec certains partis politiques, mais si le parti politique fait des trucs, des coches qui sont mal taillées, on n'est pas gêné de critiquer les partis politiques avec lesquels on a le plus d'affinités. Tu te souviens-toi des conservateurs, il y a de ça, je pense que c'est entre 2010 et 2013, tu as peut-être une meilleure mémoire que moi, mais à un moment donné, ils ont pris l'argent dans la caisse d'assurance chômage, donc dans la caisse des travailleurs, pour mettre sur le pour essayer de compenser un peu le déficit, puis essayer de se remettre un peu sur la traque de l'économie. Et ça, je faisais de la radio à ce moment-là, c'était en 2010 et 2013, je l'avais dénoncé, ça c'est inacceptable, c'est l'argent des travailleurs. Puis là, le gouvernement pige là-dedans pour essayer de combler le manque à gagner. Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, finalement, on s'est rétracté. C'était vraiment de piger dans le fond qui était réservé aux accidentés pour redonner à la SAC qui n'est pas capable de se gérer. Puis heureusement, là, la ministre Guilbeault qui s'est repris en disant « Bon, finalement, on ne pigera pas dans le fond qui est réservé aux accidentés. » Par contre, pour ce qui est des publicités là, avec l'humoriste Catherine Levac, là, ben là, cet argent-là, on va le prendre dans le fonds réservé aux accidentés. On a le droit de le faire. Tu sais. En même temps, elle a pitché un humoriste en dessous de la vanne, là, ce qui est un peu bizarre. Donc. Mais c'est comme si ces gens-là se foutaient de quelle caisse ils allaient prendre l'argent. Puis merci, bonsoir, même si on n'est pas capable de gérer, c'est pas grave, on trouvera toujours quelque chose pour renflouer nos coffres.
Non, exact. Puis, écoute, ça démontre un point. Peu importe comment est-ce que le gouvernement va appeler une cotisation sociale ou une charge ou ce genre de choses-là, à la fin de la journée, ça reste une forme de taxation. Comme on le voit, par exemple, pour le fonds pour les travailleurs ou les automobilistes accidentés, bien, dans leur cas, c'est un fonds, je veux dire, on le paye, ça. On le paye via les assurances automobiles pour être en mesure de disposer de ce fonds-là, mais il n'en reste que c'est un moyen de perception que le gouvernement a à sa disposition. Et une fois que c'est entre ses mains, bien, généralement, il l'utilise bon gré, malgré, puis c'est généralement pour arriver soit à obtenir l'équilibre pour assurer une bonne gestion des finances pour la société d'État auquel c'est associé. Généralement, c'est un fonds qui est associé, que ce soit au ministère des Transports où on a le fameux fonds vert pour le ministère de l'Environnement. Fait que, bref, tous les fonds sont rattachés généralement à des ministères et on se rend compte que finalement, bien, c'est utilisé quasiment comme des slush funds. On va l'utiliser, oui, pour leur mission première, mais une fois de temps en temps, on va piger dedans pour d'autres raisons. C'est, puis en plus, quand on regarde la situation, là, on convient à SACLIC, ou plutôt la SAQ. De un, il y a de plus en plus de débats qui commencent à avoir lieu à savoir est-ce qu'on devrait s'en débarrasser ou pas de la SAQ. Parce qu'au point où c'est rendu, non seulement c'est très mal géré, c'est très dépensier, on a plus de fonctionnaires dans cette machine-là avant qu'on avait auparavant, ça coûte plus cher à gérer, puis on perd de l'argent, on est déficitaire. Et pas juste à cause de SACLIC comme tel qui a coûté quasiment le double que ce que ça devait coûter initialement, mais il y a tous les autres éléments par rapport à la gestion comme telle de l'organisation qui nous dit ben finalement on n'est pas capable de gérer les fonds comme du monde. Puis tu sais, pour venir à SACLIC là, ça c'est scandaleux là d'en apprendre davantage avec la commission Galant à chaque jour, puis de voir à quel point finalement les informations par rapport au dépassement de coûts, on le savait quasiment depuis 2020 que ça s'en venait là. Donc bien avant les élections, même on était en pleine COVID, puis l'information était déjà connue, mais on l'a quasiment caché sous le tapis en espérant que personne s'en rendrait compte. Mais je comprends pourquoi les gens n'ont pas voulu l'affirmer. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que les gens voulaient cacher cette information-là au public, parce qu'il y a quelqu'un qui a publié il n'y a pas si longtemps, ça c'est une information intéressante, c'est sur Reddit que ça a été publié, où est-ce que quelqu'un comparait les coûts de SACLIC avec un paquet d'autres grandes inventions qui ont marqué notre époque, à savoir c'est quoi les coûts, comment est-ce qu'on peut se comparer? T'sais, là, ouais. On sait que SACLIC, ça a coûté pas loin de 1,1 milliard.
Jusqu'à maintenant. Mais donne-nous un peu de perspective. Là. Des choses qu'on utilise régulièrement, mettons, des projets sur lesquels on a travaillé pendant plusieurs années, tout comme SACLIC, là. Et SACLIC, on est là-dessus. On était là-dessus de 2017. Ça devrait se terminer en 2027. Donne-moi des perspectives, là, des autres grands projets qu'on a faits dans le monde qui ont été extrêmement concrets, puis qui vont nous donner une idée là, de l'ampleur du fiasco SACLIC.
Oui, bien, sur la même période, donc entre 2016 et 2022, a été produite la fameuse application que tout le monde connaît sous le nom de ChatGPT. Donc, oui. Cette fameuse intelligence artificielle là, que tout le monde est rendu à utiliser puis que tout le monde est rendu à copier, là, il y a entre autres DeepSeek en Chine qui copie ça. Mais ChatGPT, vous seriez surpris que ça a coûté juste 100 millions de dollars au privé pour mettre en place cette plateforme-là. Bien sûr, il y a eu de l'argent qui a été mis dans le projet depuis ce temps-là, depuis son lancement et sa mise au public, mais il n'en reste que ça n'a coûté que 100 millions de dollars pour développer une des intelligences artificielles les plus puissantes que nous avons jamais vues de notre époque. On peut aussi mentionner, on retourne quand même loin en arrière, là, donc pour la création du fameux iPhone de Apple. Ça, en 2005 et 2007, ça a duré environ deux ans et demi pour être créé. Ça a coûté 150 millions de dollars au privé pour développer littéralement le téléphone le plus répandu de la planète. Faut quand même mentionner que ça, c'est une fraction de ce qu'a coûté SACLIC jusqu'à maintenant. Puis après ça, je peux même faire un autre comparatif avec ce qu'on a connu. Alors, j'ai mentionné tantôt la COVID. Bien, durant la COVID, on se souvient qu'il y a eu plusieurs vaccins qui ont été inventés. Puis les vaccins, ça coûte quand même énormément d'argent à développer, beaucoup de tests, des laboratoires, etc. Mais Pfizer, le coût du vaccin là, qui a été pas mal un point tournant dans cette pandémie-là, le fameux biotech de BioNTech, pardon, a coûté 1 milliard. Ça a coûté moins cher développer un vaccin contre la COVID qui aura été utilisé pour lutter contre une pandémie mondiale que de développer une plateforme comme celui de la SaClick qui est même pas foutu d'être opérationnel comme du monde. On en a constamment des problèmes avec cette plateforme-là. Il n'y a pas si longtemps, en plus, le ministère osait pointer du doigt Microsoft pour un bug généralisé qui était finalement, littéralement, la faute de fonctionnaires au sein de la SAAQ. Donc, finalement, non seulement on n'est pas à de gérer comme du monde, mais on a un grand manque de transparence, puis on a un grand manque d'imputabilité. Et on se rend compte, finalement, que quand on compare les dépenses, ce qu'on fait avec l'argent des contribuables au Québec versus ce qui peut être fait dans le reste de la planète pour une action de tout ça dans le privé, avec des innovations qui ont carrément changé un peu le monde dans lequel on vit, c'est quand même triste de voir à quel point notre argent est si mal utilisé. Et cet argent-là, ben, c'est nos impôts, c'est nos taxes. Puis après ça, on a un gouvernement qui vient nous voir en disant ben, « je suis désolé, les coffres sont vides, on a des déficits, on ne peut rien faire pour vous, il n'y aura pas de baisse d'impôts, pas de baisse de taxes. » Puis voilà, ça serait populiste de proposer des baisses de taxes maintenant. Donc, pour moi, je trouve ça carrément, c'est le sommet de l'absurde, mais malheureusement, c'est présentement perpétué au Québec.
Tu m'as encore eu, Nicolas, là, je suis en train de me pencher la tête par en arrière, je chèque du nez. Tu m'as encore eu.
Je suis désolé.
Mais avec la Fédération canadienne des contribuables, là, ce genre de dépenses-là, puis là, on vient de faire un peu de perspective. Là, donc, tu l'as dit, tu sais, le dossier de SaClick, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. On va travailler là-dessus pendant 10 ans jusqu'en 2027, 1,1 milliard. Puis on n'a pas révolutionné le monde avec SaClick. Là. Tu sais, je veux dire, c'est le genre de choses qui existent ailleurs. Puis plutôt que d'acheter ce qui existait ailleurs puis de l'adapter à la poutine québécoise, on a décidé de le faire nous-mêmes. Puis ça donne un fiasco qu'on connaît. Puis ChatGPT, qui là a révolutionné mondialement, là, ChatGPT a coûté 100 millions. Fait qu'on passe de 1,1 milliard avec SaClick à 100 millions avec ChatGPT. Torieux qu'on dépense de l'argent pour rien. C'est épouvantable. Fait que vous autres, vous le constatez souvent avec la Fédération canadienne des contribuables, ce genre de trucs-là qui n'ont pas de sens. Des fois, je me dis, tu dois avoir un bon psychologue. Tu dois avoir un meilleur psychologue que le mien, Nick.
Non, comme je dis, c'est à force d'être habitué de voir ce genre de choses-là. On l'a vu au fédéral, on a vu ça dans d'autres provinces également. C'est sûr que dans le cas de la SAAQ, comme vous le savez, nous, à la fédération, mais pour ceux qui ne le savent pas, plutôt qui écoutent présentement, on fait souvent ce qu'on appelle des Teddy Awards, en fait. Donc, on distribue des prix Teddy's au pire gaspillage de fonds publics. Et la réalité, c'est que la SAAQ avait gagné le prix du pire gaspillage de fonds publics en 2023 par rapport justement à SaClick. Mais ça, c'était avant qu'on apprenne qu'il y a un dépassement de coûts, parce que dans ce temps-là, ça avait juste coûté une affaire comme 480 millions. Puis je dis juste, entre guillemets, là, c'est quand même un très gros montant pour une plateforme qui est aussi peu efficace. Mais ça, c'était avant qu'on apprenne que finalement, le coût avait été doublé depuis ce temps-là. Donc, en théorie, là, la SAAQ se positionne encore pour être un très bon candidat cette année pour notre fameux gala qui est à venir. Mais il n'en reste qu'il y a toujours des forts compétiteurs également. Là, on a vu des projets informatiques là, qui ont carrément échoué au niveau fédéral, entre autres, là, pour le développement des nouvelles plateforme pour Revenu Canada. On a vu le projet ArriveCan aussi, qu'on surnomme ArriveScam parce que c'était supposé coûter 80 000 $ puis finalement, on s'est rendu avec une facture de plusieurs dizaines de millions, pas loin de 80 millions de $ au total. Donc, finalement, ce genre de choses-là, on le voit au Québec, on le voit à Ottawa, on le voit aussi ailleurs sur Terre. On pourrait aller aux États-Unis puis on en trouverait à répétition des exemples de gaspillage de fonds publics, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est pas juste de le trouver et de le dénoncer, mais aussi d'amener constamment des solutions pour que la population puisse non seulement être bien instrumentée, bien outillée en fait pour pouvoir dénoncer ce gaspillage-là, mais pouvoir aussi faire valoir son point, puis quand ça va être le temps de voter, parce que c'est généralement à ce moment-là qu'on peut vraiment avoir un impact puis donner notre mot clair par rapport à ce qu'on a pu observer dans les dernières années, bien, au moins, la population d'être mieux éclairée pour faire ce choix-là. Ceci étant dit, il en reste beaucoup à faire. Puis, dans le cas de la SAQ, la solution que je propose, puis ça, c'est l'ultime solution nucléaire. Comme je disais au départ, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire, ben, Pourquoi est-ce qu'on la garde, la SAQ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'abolit pas pour trouver un système beaucoup plus simple? Et on pourrait s'inspirer justement du système français où est-ce que vous payez une fois pour votre permis, puis après ça, ben, le renouvellement, c'est après une certaine longue période. Je pense que c'est à vie ou sinon c'est à toutes les X 10 ans ou autre. Donc, c'est étalé sur une plus longue période et ça fait en sorte que vous avez beaucoup moins de paperasse à gérer. Là, présentement au Québec, le renouvellement des permis, c'est à chaque année. Les immatriculations, c'est à chaque année. Mais on est les seuls au Canada à renouveler à chaque année. Donc, si moindrement on simplifiait le processus ou qu'on l'abolissait pour n'avoir qu'un seul processus, un One Life Payment, par exemple, ben ça fait en sorte qu'on aurait une structure administrative et bureaucratique en moins à gérer. Puis dans ce cas-ci, ben c'est une structure en moins qui gaspillerait moins de notre argent en tant que contribuable.
Ouais, pour ce qui est de la SAQ, ils peuvent aller chercher d'autres sources de revenus. Tu n'as pas connu ces années-là, Nick. Puis moi, je suis arrivé un petit peu sur la fin. Je sais que tu vas me dire que j'ai de l'argent, mais c'est juste que ma crème de nuit est meilleure que celle de bien d'autres. J'ai connu les années 80. Puis, je voyais les vieux Bessic à pédale, parce que c'est de même qu'on appelait ça dans le temps des Bessic à pédale. Il y avait des plaques d'immatriculation sur les Bessic à pédale des années 60-70. Puis, peut-être début 80 aussi, là, il y en avait des immatriculations pour les vélos. Mais peut-être qu'on pourrait commencer à y penser un montant, je sais pas moi, un montant minime de 10$ par année pour utiliser les routes du Québec avec ton vélo. Je regardais le Journal de Québec, Journal de Montréal ce matin. Ils ont une problématique, surtout dans le secteur de Montréal. Québec, c'est pas encore commencé à ce qu'on me dit, mais quoi qu'il y en a. Mais les fameux scooters électriques, là, que les gens utilisent, qui ne sont pas plaqués, ben peut-être qu'on devrait permettre à ces gens-là de plaquer leur scooter électrique. Même chose pour ce qui est des vélos électriques, pour ce qui est des trottinettes électriques. Moi, franchement, si vous utilisez votre trottinette pour vous rendre au boulot, là, ça fait mon affaire parce qu'il y a moins de voitures sur la route. Le trafic va peut-être être moins dense. Puis en plus, ben, si vous contribuez, comme les automobilistes avec votre plaque d'immatriculation pour votre trottinette, mais c'est un montant supplémentaire qui rentre à la SAAQ. Puis, tu sais, avec une meilleure gestion puis en essayant de trouver d'autres sources de revenus, ils pourraient peut-être s'en sortir, mais on dirait qu'ils n'ont aucune vision à long terme. Puis plutôt que de dire « Ouais, on constate qu'il y a un phénomène de trottinette puis de véhicules électriques là, qui commence à arriver », plutôt que de dire « Non, on ne veut pas ça, puis on va demander à nos policiers de donner des tickets à ces gens-là », peut-être voir une nouvelle source de revenus possible.
Ben, le seul point où je serais peut-être pas en accord avec toi là-dessus, pour une rare fois, c'est vraiment la question d'ajouter une source de revenus dans l'équation. Parce que pour moi, le gros problème pour n'importe quelle organisation du gouvernement québécois, ça, c'est vraiment la colonne des dépenses plus que la colonne des revenus. Ceci étant dit, si on n'est pas appliqué un tarif sur les ceux qui ont des scooters, sur ceux qui ont des bicyclettes ou autres, j'ai demandé à ce qu'il y ait un ajustement pour les automobilistes, parce que là, présentement, c'est eux qui portent la totalité là, du fardeau. Donc, si on est pour facturer un, ben je veux qu'on défacture l'autre, parce que là, comme je parlais au départ, de la fameuse augmentation des taxes sur les matriculations des véhicules qui est en vigueur là, depuis le 1er janvier. Tu sais, c'est 154% dans la région de Montréal, 200% d'augmentation dans la région de Québec. Je veux dire, à la limite, ça devrait être correct. Ça aurait dû être transféré, effectivement, à d'autres utilisateurs de la route. Dans ce cas-ci, peut-être plus des cyclistes. Mais là, le problème, c'est qu'on demande déjà aux automobilistes de payer encore plus cher qu'avant. Puis là, on essaierait de justifier d'imposer une taxe à d'autres. Donc, il faudrait vraiment revenir à un système beaucoup plus équitable. Ça, c'est sûr, au niveau de la tarification, au niveau de la manière que les permis sont distribués. Mais à la fin, je persiste et signe, le vrai problème, c'est le gouvernement qui dépense trop. Donc, au lieu d'aller chercher des sources de revenus supplémentaires qui coupent dans la machine, tu sais, il faut le rappeler, le gouvernement du Québec, en 2010, avant 2010, on payait à toutes les deux ans nos permis puis nos immatriculations. À moi, où je pense que c'était juste le permis qu'on payait une fois ou deux ans, là, on est rendu à le payer à tous les ans. Et avec le fait qu'on ait changé ça, le gouvernement est allé chercher des revenus supplémentaires. Mais de l'autre côté, il s'est mis à augmenter la bureaucratie comme jamais. Ça a quand même augmenté de 34% la bureaucratie juste à la SAAQ depuis qu'on a changé de modèle. Fait qu'au final, on a peut-être augmenté les revenus, mais on a augmenté les dépenses. Fait qu'il n'y a rien qui s'est amélioré malgré tout. Donc, comme je dis, il faut vraiment réviser le modèle de fond en comble. Puis dans ce cas-ci, bien, l'abolition de la SAAQ pure et simple pour la remplacer par un modèle universel, uniforme, avec un one lifetime payment ou de quoi d'un peu plus aligné sur ce qui est fait dans les autres provinces, ça pourrait être intéressant.
Écoute, moi, j'embarque dans ta patente demain matin. Je voudrais peut-être plus qu'on demande peut-être de réglementer là, dans le sens où si tu as une trottinette, ben, tu dois respecter le code de la sécurité routière. Tu sais, on devrait permettre aux utilisateurs de ces bébelles-là, puis moi j'ai une bébelle, ça s'appelle une moto, là, on devrait permettre aux utilisateurs de ces bébelles-là de pouvoir se promener à Montréal, à Québec, à la grandeur du Québec sans avoir de problématiques. Et tant ou aussi longtemps qu'ils respectent le code de la sécurité routière, il n'y en a pas de problème. Je ne sais pas si tu as déjà été en Californie, mais en Californie, moi, j'ai adoré ça. C'était quelque chose que je ne savais pas. Mais moi, j'ai fait la 66 à moto. Tu sais, la fameuse route 66, là, la route mythique, l'ancienne route commerciale qui passait bord en bord de l'Amérique. Je l'ai fait à moto. Puis quand je suis remonté, j'ai passé par Pacific Highway, ce qui fait en sorte que j'avais l'océan à ma gauche en montant tout le long. Puis à un moment donné, je suis arrivé à San Francisco. Puis là, il y avait un trafic qui est extrêmement dense, Nick. Puis j'étais à moto. Puis là, je me suis installé en arrière des autres voitures. Puis tout d'un coup, j'ai vu que les gars puis les filles en moto, ils roulaient sur les lignes pointillées. Je me suis dit, hein? Ils acceptent ça? Fait que là-bas, c'est entendu que quand tu as une moto, ben, tu peux te promener dans les endroits où il y a de la place puis te rendre à destination sans faire le fameux curleuleux des véhicules à chaque fois qu'il y a du trafic. On devrait avoir une meilleure ouverture. Si vraiment on veut une planète plus verte, là, ben, on devrait permettre à des véhicules qui sont peut-être moins polluants de se rendre à destination plus rapidement. Parce que moi, tu ne me verras jamais dans un autobus de la ville. J'ai essayé le métro autant comme autant. Je préfère marcher pendant 45 minutes, Nick, que de prendre le métro. Je suis pas capable de voir des gens qui se parlent seuls dans le métro, des gens qui se crient après. Pas capable de voir des gens maganés, intoxiqués d'un bord et de l'autre. Je préfère marcher. Tu me verras jamais dans le transport en commun. Je vais utiliser toutes les ressources nécessaires, incluant la trottinette. C'est le fun, la trottinette, jusqu'à temps que tu te fasses pogner par tes chums, mais c'est quand même fun, la trottinette. Je vais utiliser toutes les ressources nécessaires avant d'utiliser le réseau de transport qui est disponible dans la ville où je suis. Fait que, moi, j'irai jamais dans le transport en commun, mais par contre, d'autres moyens que vous allez me permettre de me rendre en ville demain matin. Faut qu'on s'ouvre à ça, on n'a pas le choix.
Ben oui, absolument. Puis le problème avec ça, c'est que tu veux pas prendre le transport en commun, mais tu es obligé de payer pour pareil. C'est peut-être l'aspect le plus dérangeant. La mentalité utilisateur-payeur semble s'arrêter avec la notion du transport en commun. Parce que c'est souvent la mentalité qu'on a mis de l'avant pour toutes les autres causes, pour tous les autres coûts et tout ça, mais quand c'est le transport en commun, c'est surtout les automobilistes qui en assument le coût, ou du moins disproportionnellement par rapport aux utilisateurs eux-mêmes. Je ne suis pas un anti-transport en commun. J'habite la région de Laval, mais j'ai déjà habité au centre-ville de Montréal. J'y ai goûté, j'ai été à l'UQAM. Donc, éventuellement, tu prends le transport en commun tous les jours pour t'y rendre parce qu'à l'UQAM, ben, c'est directement au-dessus de Berry-UQAM. Donc, la meilleure manière de t'y rendre, c'est vraiment en transport en commun. Mais là où je veux dire, où est-ce que je partage un peu moins ton opinion, c'est effectivement le transport en commun, ça dépend à quel moment tu le prends. Tu peux voir des scènes assez horribles à certains moments de la journée. Comme tu peux être ramassé dans l'heure de pointe, puis là, tu n'as nulle part où t'asseoir, puis tu es littéralement écrasé en sardine, puis malheureusement, il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être pas pris leur déodorant cette journée-là. Ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Ouais. Ceci étant dit, j'ai un véhicule depuis aussi longtemps que j'ai le droit de conduire, puis je vois ça comme un grand privilège, mais on ne devrait pas être considéré non plus comme étant des citrons qu'on peut presser à répétition avec des nouvelles taxes à droite et à gauche pour pouvoir payer des infrastructures qu'on ne prend pas nous-mêmes.
Nicolas Gagnon, qu'est-ce qui se passe avec notre Paul Saint-Pierre-Plamondon national? Voyons donc, l'année passée, il était prêt à tout faire pour garder cette fameuse taxe du carbone. Il voulait imposer les pétrolières. Et là, tout d'un coup, il y a une partielle dans le secteur d'Arthabasca. Il y a quelqu'un qui a autant de chances de passer avec son parti que son propre parti. C'est à peu près 50-50. Et tout d'un coup, Paul Saint-Pierre-Plamondon se démontre ouvert à baisser le prix de l'essence. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est quoi cette grande transformation chez lui?
Ben, c'est peut-être le grand réveil. C'est peut-être le début d'une véritable stratégie de recentrage du Parti québécois. T'sais, honnêtement, je crois que c'est un peu ça qui se passe présentement parce que, objectivement, si le Parti québécois veut former un gouvernement, il doit ratisser large au sein de la population pour non seulement rester populaire dans les sondages, comme c'est le cas présentement, mais il doit aussi être en mesure de maintenir ce momentum-là. Puis comment tu fais pour maintenir un momentum quand tu es un parti avec 5 députés? Ben, c'est en t'assurant de gagner une autre élection partielle. Puis là, on s'entend que Victoriaville, ou dans, plutôt la circonscription d'Athabasca, qui va bientôt s'appeler Athabasca les Raps, ça va peut-être changer de nom bientôt, mais ça, c'est un autre détail. Mais il en reste que cette circonscription-là est connue comme étant plus conservatrice. C'est quand même un comté où est-ce qu'au fédéral, ça vote conservateur. Au provincial, ça vote pour la CAQ, mais du moins, c'est généralement des personnalités de la région, de la place qui l'emportaient. Là. Et auparavant, c'était Éric Lefebvre, là, l'ancien député. Donc, l'affaire, c'est que j'ai comme l'impression que le PQ, avec raison, au niveau national, essaie de se recentrer pour aller chercher un électorat caquiste. D'un autre côté, ils vont aussi faire la stratégie régionale de, ben, on doit parler à ce monde-là. Et ce monde-là, ils veulent parler du prix sur l'essence. Les agriculteurs veulent en parler. Les gens qui sont dans les différentes compagnies, dans le camionnage, entre autres, ils veulent en parler. Et les automobilistes veulent en parler parce qu'ils sont de plus en plus conscients de cette réalité-là. Maintenant, comme tu l'as mentionné, Paul Saint-Pierre Plamondon, à plusieurs reprises au cours des dernières années, même s'il parlait du prix de l'essence, on va y donner, c'est vrai, depuis quand même plusieurs années, il en parle, il ne parlait jamais des taxes sur l'essence. Ni même du prix plancher sur l'essence, qui a été mis en place par le Parti québécois dans les années 90 puis qui vient tout juste d'être aboli par la CAQ. Mais il parlait, par exemple, de mettre en place un prix plafond sur l'essence, qui aurait été carrément destructeur pour notre économie. Là, essentiellement, je peux vous garantir que ça a été une question de semaine avant qu'on se retrouve avec des line-up devant les stations de service parce qu'on aurait manqué de pétrole, littéralement. Là, les entreprises ne vont pas payer, ne vont pas vendre un bien en dessous d'un prix déterminé par le marché. En passant, là, ça, c'est une simple règle économique très basique. Donc, il n'en reste que le centrage de Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve quand même bon. Un peu opportuniste, oui, mais en politique, c'est pas opportuniste, t'es rien. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est une bonne chose. Il parle de la taxe sur l'essence, c'est environ 19,2 cents par litre d'essence. Il n'a pas encore dit de combien de cents il voulait la réduire, mais au moins, il veut s'y attaquer. Il parle aussi de la taxe sur la taxe. Donc, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais il vaut mieux faire un petit cours rapide. On paye plusieurs taxes sur l'essence, mais les taxes s'appliquent sur la taxe. Donc, vous avez dans le prix de l'essence la taxe sur les carburants, taxe d'assises fédérale. Vous avez la taxe carbone, là, ou plutôt le SPED. Et par-dessus ça, vous avez la TPS et la TVQ qui s'appliquent. Donc, mettre fin à cette double taxation, ça fait partie des solutions que le PQ propose. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ce sont des idées que nous, à la FCC, on pousse depuis plus d'une décennie au Québec. C'est aussi des idées que le Parti conservateur du Québec avait dans sa plateforme depuis quand même un certain moment. Et ça se trouve que c'est le parti qui est le principal opposant au PQ dans Athabasca. Donc, lorsque le PQ, en ce moment, il essaie de s'inspirer de quelques lignes du Parti conservateur pour être en mesure de ratisser plus large, puis ensuite battre la CAQ, ça semble un peu être la stratégie empruntée. Moi, comme je dis, à la fin de la journée, je vais saluer l'initiative. Mais si jamais le PQ forme un gouvernement, ils doivent s'attendre à être talonnés. Et là, ils se sont talonnés aussi sur un autre dossier. Si vous baissez les taxes sur l'essence, vous compensez comment? Qu'est-ce que vous coupez? Parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, c'est plus d'argent dans les poches des contribuables, mais c'est une perte de revenus pour le gouvernement. Et ça, il faut expliquer comment est-ce que c'est compensé, sinon on va agrandir le déficit davantage. Donc, tout ça étant considéré, le débat, il est très intéressant en ce moment, mais ce qui me dérange le plus, c'est le refus de parler de la taxe carbone de la part du PQ, ou du moins de s'engager à l'abolir, alors que ce serait la position qui serait la plus populaire, qui serait la plus gagnante. Et si tu veux tirer le tapis sous le pied d'Éric Duhaime, si tu veux vraiment pas qu'il rentre à l'Assemblée nationale, vas-y ses idées. Fais la stratégie Mark Carney. Je veux dire, c'est exactement ce que Mark Carney a fait pour Pierre Poilievre. Oui. J'ai rappelé dans bon Machiavel politique, Mark Carney voulait pas faire une élection sur la taxe carbone. Il l'a abolie juste avant les élections.
Puis on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines minutes de Mark Carney puis du discours du trône du roi Charles. C'était un vrai cirque hier. Je ne sais pas si tu as écouté ça avec une grande attention, mais moi, c'est le texte qui a été lu par le roi Charles qui m'a fait complètement halluciner. Mais pour en revenir à nos moutons, j'ai entendu Paul Saint-Pierre Plamondon dire que de sortir de la taxe carbone, ça pourrait nous coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. Qu'est-ce qui ferait en sorte que de sortir de cette taxe-là, il faudrait déplier encore plus d'argent? Je comprends pas.
Ça, c'est un point qui est assez intéressant. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est malhonnête, mais c'est quand même un mauvais calcul qui est fait. Parce que d'une part, ils disent qu'il va y avoir un prix à payer dans la mesure, puis là, c'est ça qui c'est beaucoup joué avec les mots, c'est de laisser entendre que le Québec va perdre des revenus parce qu'il va sortir du marché de carbone. Ce qui est vrai, parce que essentiellement, le gouvernement du Québec va chercher des revenus avec le marché de carbone. On n'appelle pas ça une taxe pour rien, c'est parce que le gouvernement a mis en place un mécanisme qui impose un plafonnement aux entreprises entreprises qui les forcent à acheter des droits d'émission. Et c'est les revenus sur les droits d'émission qui sont refilés aux consommateurs, mais ces revenus-là sont également mis dans le fameux fonds vert, où est-ce qu'on dilapide ça à travers des programmes de subvention. Donc, essentiellement, ce sont ces revenus-là qui seraient perdus. Et là, ils se basent constamment sur l'exemple de l'Ontario, qui est sorti du marché de carbone en 2019 pour ne plus en faire partie. Essentiellement, ça faisait partie des promesses de Doug Ford, en fait, quand il a été élu la première fois en 2018. Ils ont livré, mais finalement, ils se sont retrouvés avec la taxe carbone fédérale. Donc, ils ont une victoire locale, mais ils ont eu une défaite un peu plus tard. Mais la perte de revenus qui était identifiée pour l'Ontario à ce moment-là, c'était environ 3 milliards sur 4 ans. Donc, c'est les revenus que le gouvernement de l'Ontario n'irait pas chercher avec le marché de carbone. Donc, c'est la même chose qui est à peu près calculée aussi par Paul Saint-Pierre-Plamondon, du moins par le PQ dans leur communication. Puis l'autre élément qu'ils mentionnent, c'est le fait qu'il faudrait absolument dédommager les entreprises, voire leur verser des compensations sous forme de bail-out. Et là, là-dessus, je mets mon point sur la table et je le dis comme Paul Saint-Pierre-Plamondon, « over my dead body ». Il n'y aura pas de bail-out pour ça, je suis désolé. Et pour expliquer mon point, je vais mettre deux choses au clair. La première, c'est que les droits d'émission peuvent être vendus. Le gouvernement a juste à faire en sorte que les entreprises peuvent conserver ces revenus-là au lieu qu'ils soient versés et automatiquement, ben, ils sont compensés eux-mêmes. De deux, si on abolit la taxe sur le carbone ou le marché de carbone présentement, ils n'auront plus à la payer dans le futur. Donc, on n'a pas besoin de les compenser. De la même manière qu'on ne verse plus de remboursement aux Canadiens depuis que la taxe carbone sur les consommateurs ne s'applique plus. Il n'y a pas de compensation pour les dernières années. On met fin au mécanisme, donc ils épargnent dorénavant. Et le troisième point pour les entreprises qui oseraient faire l'argument comme quoi il faudrait les compenser, je tiens à dire une chose, elles sont chanceuses dans une certaine mesure. Elles ne sont pas chanceuses d'avoir un système de plafonnement parce que je trouve que ça nuit à nos entreprises, ça nuit à notre économie et ça n'amène absolument aucun résultat concluant par rapport à l'environnement. Mais c'est un rabais par rapport à ce que les entreprises dans le reste du Canada payaient parce que la taxe carbone fédérale est deux fois plus élevée, était deux fois plus élevée que ce que nous, on payait au Québec. Donc, essentiellement, le système de plafonnement et échange des droits des émissions du Québec, le fameux SPED, taxe carbone, appelez ça comme vous voulez, à la fin, elle était moins élevée. C'était comme si on avait un rabais au Québec par rapport au reste du Canada. On a fait même plusieurs communications là-dessus à la FCC qui démontraient justement ce déséquilibre entre le Québec et les autres provinces qui profitaient essentiellement à nos entreprises. Là, c'est rendu l'inverse. On est rendu les seuls à payer la taxe carbone, donc on est les seuls à se tirer une balle dans le pied. Mais il n'y a aucune raison au monde pour laquelle on devrait verser une compensation aux entreprises. Ce n'est pas la même situation qu'avec les chauffeurs de taxi à l'époque. Là, on n'est pas à la même place pantoute. Ceci étant dit, il y a pas de montant supplémentaire que les contribuables devraient payer. Et finalement, je pense que la solution gagnante, c'est celle que Éric Duhem propose. On doit, d'une part, mettre fin au marché de carbone et d'une part, tirer la plug sur le fonds vert et sur tous les programmes de subventions ridicules qui y sont attachés, qui dilapident notre argent à des multinationales qui font déjà des centaines, voire des centaines de millions en profit à chaque année, voire des milliards, qui ont amplement les moyens de faire leur propre rénovation verte ou de payer pour leur propre borne de recharge ou ce genre de choses-là qui est essentiellement financé par le fonds vert. Les subventions pour les voitures électriques, là, ça suffit. Là. C'est les gens qui en arrachent, qui ont de la difficulté à payer leur loyer, qui payent des taxes finalement pour que des gens qui ont clairement les moyens de s'acheter une voiture électrique puissent avoir un rabais. C'est complètement ridicule. Puis ça, c'est le fonds vert qui permet ça. Donc, le calcul, c'est si on veut s'assurer ce que ce soit à coût nul pour les contribuables et pour l'économie québécoise, même qu'on ait un gain parce qu'on aura une taxe en moins pour pénaliser notre productivité, bien, c'est abolir le marché de carbone et le fonds vert. Puis honnêtement, le Québec pourra juste être gagnant à ce niveau-là.
Parlons-en un peu de la taxe carbone puis du fonds vert. Je ne sais pas si tu as lu l'article du journaliste Gabriel Côté hier qui s'est penché un peu à savoir où est-ce que l'argent du fonds vert allait. Puis des fois, je suis un peu de mauvaise foi, mais je cale la shot d'avance. Il y a de ça quelques années, tu l'as certainement vu passer, puis je pense que c'est pas la première fois que tu l'entends de ma part. Mais avec le fonds vert que les Québécois contribuent, ben, on avait utilisé cet argent-là pour aller électrifier une clôture à gorille au Gabon. Ça date déjà de quelques années. Puis le journaliste que je salue, du Journal de Québec, Journal de Montréal, Gabriel Côté, a regardé où allait notre argent. Puis finalement, ça va pas à des petites PME, ça va pas nécessairement à dépolluer des rivières. Ça va vraiment à des entreprises qui sont déjà milliardaires. Nick, avec la Fédération canadienne des contribuables, comment vous trouvez ça qu'on donne 30 millions à un géant britannique de l'alcool? Le géant britannique, c'est Diageo. Lui, il pige dans le fonds vert depuis 2020 et ça a servi, le 30 millions qu'on lui a donné, à convertir à sa distillerie de Salaberry Valleyfield à l'électricité et on a remplacé ses chaudières au mazout et au gaz naturel parce qu'on disait que ça émettait des tonnes de CO2 dans l'air. Donc, cette multinationale-là qui rapporte à chaque année pour ses actionnaires des milliards de profits, ben, ont bénéficié d'un 30 millions. Puis qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils font de la Smirnoff puis ils font du Captain Morgan. Ben, c'est au moins ça. Ils font du Captain Morgan. Ça nous revient un peu dans le corps, là. C'est...
Ben, c'est ça. Au pire, on peut boire du Captain Morgan pour oublier qu'on a payé une subvention à une entreprise qui avait clairement les moyens de faire ses propres rénovations avec son argent. T'sais, je vois aussi ça passer. Là, on a fait 1,7 million pour Glencore. Là. Je tiens juste à dire que leur chiffre d'affaires, là, c'était en US, c'était 231 milliards de dollars l'année passée. T'sais, c'est une pauvre petite entreprise qui a de la difficulté. Ben, apparemment, ils se qualifiaient au programme Éco-Performance, qui est un autre programme rattaché au Fonds vert, qui est là pour aider les entreprises là, à, essentiellement à analyser ou à implanter des projets d'efficacité et de conversion énergétique. Bref, pour, en bon français, on appelle ça de l'enculage de mouche, là, mais c'est des programmes qui sont à la disposition des grandes entreprises comme ça, des multinationales, on en a à la tonne. Il y a Air Canada qui a été cherché 1,1 million de dollars alors que c'est quand même une entreprise privée, il faut le rappeler. On oublie souvent que c'est privé, cette entreprise-là. Mais ils font un chiffre d'affaires de 21 milliards, mais apparemment, l'argent des contribuables était nécessaire pour les aider. On a ArcelorMittal qui ont reçu de l'argent, 7,5 millions. Olimel aussi. On en a de toutes les sortes. On a même les producteurs de cannabis du Québec qui reçoivent des subventions pour produire du cannabis plus vert, j'imagine. Ben, mais
il y a un lien, le cannabis fond vert, il y a un lien. Mais là, attends un peu, juste te poser une question, Nick. Là, le Coors, là, c'est qui le brasseur de Coors? C'est-tu Molson?
Oui, c'est Molson. On
n'en parlera pas. C'est correct, on ne parlera pas de Molson. Ah ben, je vais en parler pareil parce qu'il faut être honnête. Molson, les autres sont dans misère comme pas possible. Là. Ben, ils ont aussi pigé dans le fond vert. Ils ont eu un 2,5 millions de dollars. Est-ce que vous êtes encore convaincu qu'on doit contribuer au fond vert? Quand on voit ces entreprises-là, multimilliardaires, recevoir cet argent-là, c'est une catastrophe. Kroger a reçu 10 millions de dollars. Comme Manac, qui est une belle entreprise dans le secteur de la Beauce, 1,5 million de dollars. Le Strom Spa Nordic a pigé aussi dans le fond vert. On les aime bien, les gens du Strom Spa Nordic. Quand on va là, on est très bien servi, puis le service à la clientèle est impeccable, puis ça nous fait du bien au corps. Mais de savoir qu'ils ont pigé dans le fond vert, ça titille un peu, bien entendu. Mais c'est ça. T'sais, moi, Nick, j'aime ça trouver des solutions aussi. Là. Si tu m'avais dit, Yann, le fond vert, ça sert à dépolluer des rivières. Le fond vert, ça sert à nos PME à travailler sur des nouvelles technologies qui vont faire en sorte que ce moteur-là qu'on est en train de créer, il va consommer moins d'essence. T'sais, si tu m'avais dit des patentes comme ça, j'aurais été un peu plus ouvert. Mais que ce soit déjà des gens multimillionnaires qui bénéficient de tout ça, ça nous pue au nez. Puis j'imagine que du côté de la Fédération canadienne des contribuables, vous surveillez ça avec une grande attention.
Oui, ben absolument. Ça nous pue au nez aussi là, je veux dire, toute forme de subvention, à chaque fois, on va la dénoncer parce qu'on constate que essentiellement l'approche à préconiser, c'est moins d'impôts puis permettre une meilleure compétitivité. Puis c'est justement là que les entreprises, quand elles ont plus de marge de manœuvre, peuvent investir dans leur recherche et développement, être plus innovantes, plus éco-énergétiques. C'est en enlevant des entraves qu'on leur permet d'avoir la capacité de le faire. Maintenant, pour le fonds vert, nous, ce qu'on va dénoncer, c'est pas tant les entreprises qui les obtiennent, parce que à la fin de la journée, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il prend un beau plateau d'argent avec un paquet de programmes, puis il met ça devant la face des grandes entreprises en disant « c'est à votre disposition, venez piger dedans ». Ces entreprises-là seraient très mal placées de refuser de l'argent gratuit comme ça à la fin de la journée. Ben, la réalité, c'est que la faute est dans la cour du gouvernement. Puis c'est drôle parce que l'article de Gabriel Côté auquel on fait référence, qui est un excellent article, qui est un très bon journaliste d'ailleurs qu'on salue, il a publié ça. Puis en réponse, le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charrette, il est sorti sur les réseaux sociaux en disant, en passant, félicitations à Québécois pour votre lutte contre pour la décarbonation, parce que vous avez vous aussi reçu 300 000 $ en aide pour améliorer l'efficacité énergétique de vos bâtiments, puis vous avez reçu une subvention de 3 000 $ pour une borne de recharge. Mais moi, je suis allé du tac au tac carrément, puis je pense qu'il s'est senti, il n'a pas fait bien de sortie depuis ce temps-là, je pense qu'il s'est senti remis à sa place pas mal, mais il disait, donc vous concédez que ce fonds-là, il sert à des entreprises qui ont clairement les moyens de payer pour ces rénovations-là. Je veux dire, moi, je n'ai pas blâmé Québécois pour avoir obtenu une subvention, parce que moi, j'ai blâmé le gouvernement d'avoir mis cette subvention sur la table et l'avoir mis à disposition, parce que c'est clairement pas juste Québécois qui l'a obtenu. Là. Je veux dire, on parle d'entreprises multimilliardaires qui ont obtenu des millions de dollars en subvention les dernières années. C'est le 300 000, là, c'est même pas la cerise sur le gâteau. Là, Nick, c'est le queue de la cerise sur le Sunday. Là.
Nick, le journaliste fait sa job, puis t'as le ministre qui réagit à ça en faisant de l'intimidation à Québécois. Voyez-vous dans quel genre de province qu'on est, là? Tu sais, souvenez-vous, je veux pas revenir pendant le temps de la pandémie est en arrière de moi, là, mais je me souviens de Sébastien Bovet qui avait fait une critique à l'égard du gouvernement, puis le PM l'avait contacté directement par courriel le soir en disant qu'il était pas content de ce que Sébastien Bovet avait dit. Je veux dire, ça ne devrait pas exister. Il devrait y avoir un mur entre les politiciens puis les journalistes et les éditorialistes, puis de savoir que ces gens-là se permettent de mettre de la pression sur le groupe média parce qu'ils ne sont pas contents du papier qui a été écrit. Écoute, ça s'apparente des fois à des pays un peu louches qui utilisent des stratégies un peu louches, là.
Ben oui, ça fait... Le Québec est quand même une belle démocratie libérale avec des bonnes institutions, mais ça fait attitude république de banane pareil. On va se le dire franchement, le politique puis le médiatique devraient toujours rester loin l'un de l'autre, mais toujours très proches en même temps, parce que nos médias sont quand même nos chiens de garde, puis les chiens de garde de la démocratie, comme on les appelle. Et dans ce cas-ci, ben, t'as un journaliste qui a effectivement fait son travail pour nous informer de comment notre argent est utilisé, et on se venge après ça en pointant du doigt l'employeur de ce journaliste-là en essayant de démontrer que finalement, chialez pas trop fort parce que vous pourriez être affecté si jamais. C'est comme si cette sortie-là venait avec une genre de petite menace, tu sais, en disant comme « Ah, ben, si vous continuez à chialer là-dessus, on va peut-être vous couper les subventions la prochaine fois, tu sais. » Puis oui, sans faire trop de parallèles avec la pandémie, là, on se souvient de ce qui s'était passé, entre autres, avec une certaine radio à Québec qui exprimait un peu trop ses opinions par rapport aux mesures pandémiques. Puis là, le gouvernement s'est mis à dire, ben, on va vous couper les publicités. Oui. Là, ça voulait dire qu'il y aurait peut-être la mort de la radio essentiellement. Donc, éventuellement, la radio a dû se réaligner pour ne pas perdre ces subventions-là, parce que c'est comme sous forme de subvention, les publicités, parce que c'était les seuls, parce qu'à ce moment-là, il y avait une crise, les publicités étaient moins nombreuses, il y avait beaucoup de pertes de revenus dans le milieu médiatique. Là, on disait, ben, écoutez, si vous alignez pas, vous allez perdre des revenus. J'espère que c'est pas ça que le ministre de l'Environnement disait, mais c'est l'attitude qui est totalement, là, je veux dire, qui est à dénoncer.
Ouais. J'étais là à ce moment-là, j'étais dans cette station de radio-là, puis on s'est pas réaligné. On a continué à faire le travail qu'on faisait, mais ce qu'on pouvait déplorer, c'est de voir qu'il y a des journalistes et des éditorialistes qui devaient être doux et dociles envers le gouvernement s'ils voulaient avoir accès à des entrevues one-on-one avec les ministres. Et ça, c'était pas beau à voir. J'espère juste que cet épisode-là est derrière nous. La gang de la Fédération canadienne des contribuables fait de l'overtime ce soir en nous parlant. J'ai toujours le plaisir de faire des chroniques avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Pour les gens qui veulent savoir c'est quoi la Fédération canadienne des contribuables, je vous invite à aller faire un tour sur contribuable avec un s.ca, contribuable.ca. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le garage à Dan Caron a ressorti son jukebox, histoire de vous pousser des bonnes vieilles tunes. Même du rock qu'on n'entend pas dans la programmation régulière. Le garage à Dan, tous les vendredis, 18h.
Boulevard 101. Tout comme Solidarité Famille Sécurité Routière, Boulevard 101 veut vous garder en un seul morceau. Célébrons 15 ans de sensibilisation et de promotion à la sécurité routière dans nos quartiers. Joignez-vous à la marche de la sécurité routière le samedi 31 mai à Saint-Augustin-de-Desmaures. Fête familiale pour tous, petits et grands. Tous les détails au sfsr.info. Parce que la sécurité routière, j'en fais mon affaire. Un message de Solidarité Famille et Sécurité Routière et de Boulevard 101. Envie d'un été électrisant? Passez à l'ID4 2024. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, obtenez-le avec un financement à 0 % jusqu'à 72 mois. Et ça, c'est sans vous parler du 4 000 de rabais gouvernemental et de 11 000 de rabais additionnel. Passez à l'électrique chez Volkswagen Saint-Nicolas.
Bourbeau, pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bourbeau et fils, l'expertise, le souci d'en offrir toujours plus et les conseils de qualité s'acquièrent avec les années. La passion, elle, nous habite depuis 87 ans. Votre centre jardin Gérard Bourbeau et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Jardinier amateur ou producteur, vous trouverez un grand choix de produits horticoles, tout pour combler vos besoins. En pépinière, plusieurs rosiers, une multitude de grimpantes, d'arbres fruitiers et plus de 1000 variétés de vivaces. Première avenue à Charlebourg, gérardbourbeau.com.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Mettre du ruban adhésif pour limiter une craque dans un pare-brise, c'est pas vraiment la solution parfaite. Passez donc chez Desharnais. Pour le service, les pare-brises, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
Salut, c'est Joanie Fortin. C'est le retour du balado Histoire d'entrepreneur. Pour la nouvelle saison, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Cécile Dufour des Cliniques Viva, Marc-Antoine Reed, planificateur financier, Anya Okuka de Café Castello et William Trudel des Immeubles Trudel. La saison commence le lundi 26 mai avec la magnifique histoire d'Étienne Lessard, courtier immobilier. Soyez là!
Histoire d'entrepreneur, présentée par l'équipe Marc-Antoine Reed, DG Gestion privée du patrimoine qui s'occupe de la planification financière et fiscale de votre entreprise. Équipe MarcAntoineReed.com.
La méga bibliovente de la Bibliothèque de Québec est de retour. Participez à la plus grande vente de documents usagés au Québec du 29 mai au 1er juin au Centre de foire d'Exposité. Plus de 200 000 documents à vendre au kilo. Des nouveautés déballées tout au long des 4 jours de l'événement. Romans, BD, livres jeunesse, DVD et plus encore. Il y en aura pour tous les goûts. Tous les détails au bibliothèquedequebec.qc.ca/méga-bibliovente.
Le civisme sur la route, c'est...
C'est juste de savoir-vivre.
Le civisme sur la route, c'est...
Ah, tout le monde sait ce que c'est.
Le civisme sur la route...
C'est juste bien se comporter, arrêter de couper le monde...
C'est ça. Arrêter de couper le monde.
Ah, ouais. OK, je comprends. Excuse-moi.
C'est aussi ne pas accélérer au feu jaune, mettre son clignotant...
Excusez, je peux y aller?
Oui, oui.
C'est juste de savoir-vivre.
Exact. Bien se conduire sur la route, c'est juste la base. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Prêt à relever le défi? Immeuble Roussin, une entreprise immobilière située à Québec, recherche un directeur construction et exploitation. Rejoins une équipe dynamique et contribue à des projets ambitieux et stimulants. Tu seras responsable de la planification, de la coordination et de la supervision des activités liées à la construction et à l'exploitation de nos immeubles. Tu seras au cœur de l'action, entouré d'une équipe motivée, avec la liberté de mettre en valeur ton expertise et ton expérience. Postule dès maintenant sur le immeubleroussin.com.
Chez Poliquin Décor, profitez de plus de 60 ans d'expertise et d'un service à la clientèle exceptionnel. Découvrez notre vaste sélection de papier peint, rideaux, toiles et persiennes, distributeur de peinture MF 100% québécoise. Visitez poliquindecor.com.
Lévis Ford déménage. Et qui dit déménagement dit liquidation. Trouvez le modèle qui vous convient et aidez-nous à vider le plancher en profitant de rabais exceptionnels. On se retrouve en juin au 5307 Louis H. Lafontaine. Lévis Ford, les forts de Lévis.
Boulevard 102.1, la radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Papa, je suis obligé de mettre mon habit de main.
Fait que moins 25, moins 27, le ressenti. Assurez-vous d'être bien habillé demain matin, parce qu'il va faire plus frais.
Ah, tu me niaises-tu, là? Pourquoi c'est encore bouché ici?
Oui, il y a un accident, donc un incident sur... Voyons.
La route?
Sur la route, oui, là, sur Wilfrid Hamel. En fait, c'est pas vrai, c'est sur la capitale.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous ce soir. Merci de t'être rendu disponible. J'aurais aimé te parler hier, mais j'avais d'autres choses de bouquet. Puis je me suis dit, ben le roi anyway, il est parti. Fait qu'on peut parler dans son dos une fois qu'il est parti. Le maire, pas le maire, mais le roi d'Angleterre qui vient faire son tour au Canada. Ce qu'on voulait démontrer du côté de Mark Carney, c'est que le Canada était souverain. En fait, ce qu'on a montré hier, c'est que le Canada est une colonie qui est sous le joug de l'Angleterre. Et on a eu un discours complètement weird, Nicolas. Là, j'avais pas l'impression que c'était un discours qui était libéral. J'avais l'impression que finalement, ben, c'était Pierre Poilievre qui avait gagné puis qui faisait lire son texte par le roi d'Angleterre.
Ben, c'est un peu ça que ça ressemble au final. On parle de grande transformation de l'économie canadienne, puis au final, ben, ça s'oriente pas mal dans les mêmes grandes lignes que ce que Poilievre proposait. Donc, on ramène l'avant tranquillement des projets d'énergie, des projets de pipelines qui étaient un peu entre les lignes. Là, que dans le fond, on s'entend pour dire que le réalignement de l'économie canadienne, ça va être pour être plus productif, plus exportateur, moins aligné sur les États-Unis. Puis c'est drôle parce qu'au départ, la présence du roi Charles, c'est pour rappeler à quel point le Canada, c'est un pays souverain. Donc, c'est quand même assez particulier que notre souverain, nous, notre chef d'État, il soit dans un autre pays, puis il faut le faire venir pour indiquer au pays d'à côté qu'on est indépendant. Là. Mais aussi, ça reste quand même important de mentionner que malgré tout, ça ne semble pas avoir eu l'effet escompté parce que jusqu'à maintenant, Trump était rendu assez, comment dire, calculateur sur à quel moment il allait parler du 51e État. Et il semblerait que juste après le discours du roi Charles, ben, ça n'a pas pris deux secondes avant que Trump aille sur Truth Social, son propre réseau social, puis il dise carrément, ben, tu sais, le Canada, s'il veut faire partie de notre projet d'un Golden Dome, là, donc ce projet où est-ce qu'il va avoir des satellites qui vont bloquer les missiles intercontinentaux vers l'Amérique du Nord, puis qui pourrait intégrer le Canada là-dedans, ben, tu sais, pour que le Canada en fasse partie, ça va nous coûter 61 milliards de dollars. Donc, je ne m'attendais pas à une facture trop petite non plus. C'est quand même tout un système, puis c'est quand même très cher. Mais il m'a dit, ça pourrait rien nous coûter si on devenait un 51e État. Donc, encore une fois, puis il finit son commentaire en disant, ils hésitent ou ils songent à l'offre présentement. They're considering it. C'est pas mal les mots qu'il a utilisés. Ceci étant dit, ça démontre à quel point, finalement, c'est un show de boucan ce qui a eu hier. Puis ce show de boucan-là, ben, veut pas, ça coûte de l'argent aux contribuables. On a eu encore une fois les chiffres de le coût de la monarchie, pas juste le coût de faire venir le roi. Ça, je vous le confirme à l'instant, à la Fédération canadienne des contribuables, on a soumis nos demandes d'accès à l'information pour connaître les coûts de la venue du roi et de la reine consort Camilla. Donc ça va vous sortir ça plus tard.
Ce qu'on dit, c'est que ça a coûté entre 1,5 et 2 millions de dollars, mais j'imagine que ça peut avoir coûté plus. Puis merci d'avoir fait la recherche. J'espère que vous aurez vos réponses. Pour ce qui est du coût de la monarchie à chaque année, vous avez fait l'exercice. Puis là, il faut dire qu'on ne paye pas... Il n'y a pas d'argent qui part d'ici et qui s'en vont directement dans les coffres du roi d'Angleterre. C'est vraiment le coût de la monarchie, ça reste au Canada. Puis avec ça, ben, on paye le lieutenant-gouverneur, les lieutenants-gouverneurs, puis on paye le gouverneur général du Canada, c'est ça? Puis les anciens qui étaient là avant. Puis les pensions, puis tout ça.
Oui. OK. Exactement. Dans le fond, le coût de la monarchie, c'est environ 71 millions. Puis la part du lion, c'est Rideau Hall avec la gouverneure générale, puis les pensions des anciens gouverneurs généraux, puis ainsi que tout le staff qui entoure la résidence, plus les activités, plus les coûts d'accommodation, le transport, l'alimentation, les salaires. Donc, bref, ça n'arrête pas. Et il faut rappeler que oui, les lieutenants-gouverneurs viennent avec un coût également, puis ont leur propre staff, leurs équipes également, leur lieu de résidence selon la province. Bien sûr, juste au Québec, le lieutenant-gouverneur nous coûte pas loin de 800 000 $ par année. Donc, ça a l'air de rien, mais on ajoute ça au reste de toutes les autres formes de symboles de la monarchie qui sont payées par les contribuables. Puis on arrive à ce coût-là, environ 71 millions de dollars. Donc, il faut dire que c'est un coût qui est plus élevé qu'il y a 5 ans. Quand on fait le calcul, c'est 10 % de plus que ce qu'on payait il y a environ 5 ans. Donc, c'est environ 7 millions de dollars là, de plus. Et au final, ben, on paye plus pour une institution qui nous a jamais aussi peu représentés en tant que contribuables, en tant que Canadiens, puis surtout en tant que Québécois, parce que s'il y avait une province où est-ce que la monarchie est particulièrement impopulaire, c'est au Québec. Puis ça ramène complètement le tout à cette situation ironique où est-ce que le Québec, cette province qui s'est toujours démontrée comme étant la plus, sans dire souverainiste, mais la plus portée à assumer son autonomie, à démontrer son aspect en tant que société distincte et francophone, c'est aussi la province qui a donné le plus de votes ou du moins qui a donné le plus de sièges supplémentaires à Mark Carney pour qu'il forme son gouvernement. Et ben, la première chose qu'il a faite en formant son gouvernement, c'est de dire, ben, j'ai appelé le roi pour qu'il vienne faire un discours du trône. Puis, merci Québec. T'sais, donc, c'est assez paradoxal. Puis, ben, j'espère que les gens s'en rendent compte. Mais bien sûr, disons-le franchement, ça a un coup la monarchie. Puis, clairement que les gens veulent qu'on s'en débarrasse, mais c'est pas non plus l'ultime priorité. À la fin de la journée, c'est des privilèges, des symboles. C'est une institution qui n'a plus vraiment lieu d'être. Mais d'un autre côté, il y a un ménage de fonds en compte qui est à faire au fédéral si on veut aller chercher des économies avant de s'attaquer aux 71 millions de dollars qu'on donne à la monarchie à chaque année. Ceci étant dit, éventuellement, peut-être qu'on s'en libérera, mais ça, c'est un choix à faire collectivement. C'est pas à moi de déterminer ça.
Ben, c'est ça. Puis en même temps, moi, je suis fidèle à ce que je prône depuis le début. Jamais je vous dirai pour qui voter, mais moi, ce que j'aime, c'est que vous puissiez faire un choix juste et éclairé. Puis c'est la raison pour laquelle j'adore parler avec la Fédération canadienne des contribuables. J'adore te parler. Contribuable avec un S.ca. Ça te décourage-tu des fois quand tu regardes les dépenses du gouvernement? Je sais que... T'es-tu un comptable dans l'âme? Toi, tu... ou bien tu t'es fâché à chaque fois? T'es-tu désensibilisé?
Ben en fait, moi, je suis un analyste de politique publique. Fait que je suis pas tant comptable. Je connais des chiffres, je suis capable de les suivre, ça, c'est sûr et certain. Mais là où est-ce que je suis plus scandalisé, c'est quand les politiciens jouent avec les mots et essaient de nous cacher les chiffres. Ça m'insurge. On en a parlé dans les dernières semaines à quel point certains partis politiques parle de n'importe quel chiffre pour refuser par exemple, d'abolir la taxe carbone, ce genre de choses-là, je m'insurge. Quand je vois des questions comme la SAQ nous dire que finalement, ben, les dépassements de coûts, on le savait depuis le début, mais on les a cachés à la population, ça, je m'insurge face à ça. Mais puis surtout quand on a aussi un ministre des Finances comme Éric Girard qui nous dit qu'on a un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, puis finalement, il y a Standard & Poor's qui débarque, une agence de notation de New York qui dit « Ouais, ben, en passant, on décote le Québec, votre plan ne tient pas la route. » Ça, c'est le genre de choses qui m'insurgent. Mais à la fin de la journée, je garde espoir en me disant que la population est de plus en plus bruyante sur ces enjeux-là. Ouais. J'ai jamais vu autant le mot « keyword », ça c'est un mot qui est très important, le mot « contribuable ». Les gens n'ont jamais été aussi conscients de à quel point ils sont des contributeurs nets envers un gouvernement qui trop souvent les laisse derrière. Et cette réalisation-là, ben, va, j'espère, amener éventuellement les changements politiques